j'ai eu une vie d'amour. Depuis, parce que j'ai en fait 79 ans. Non, 89 ans.
Mais oui, mais on n'est pas à 10 ans près, Jacques. Ouais.
quelle horreur. J'aimerais bien.
Matryoshka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Noël, ça veut dire nouvel élan et c'est le temps de l'amour. Alors, dans Matryoshka, on s'est tourné vers cette nouvelle poupée russe, Jacques Séguéla, qui, quel que soit son âge, s'est propulsé dans son temps avec amour et passion. Jacques Séguéla, on le sait, c'est le roi de la pub, l'homme aux 1500 campagnes publicitaires, aux 20 campagnes présidentielles. C'est aussi le cofondateur en 70 de l'agence de publicité de communication RSCG avec Roux, Séguéla, Kézac et Goudard. Cette agence qui s'appelle aujourd'hui Havas, connue mondialement, internationalement, universellement. Il a écrit une trentaine de livres et aujourd'hui il les compresse en un. C'est ce livre-là, 90 ans d'amour. Mais aujourd'hui dans Matryoshka, il nous explique ce qu'il a toujours fait avancer entre la réalité du quotidien et le rêve tel qu'il se le figure.
Le poids des mots, le choc des photos, c'est la définition aussi bien de la publicité que de la presse. La grande différence, c'est que le journalisme est au service des faits, quels que soient les faits. La publicité est au service du rêve, quel que soit le rêve. La publicité, elle est en permanence la recherche du rêve, la recherche de l'amour. Alors on dit qu'elle est menteuse. Oui, elle ment par omission, mais tout le monde le sait. Hein, quand on dit qu'une cible la plus blanc, les gens savent très bien que on ne dit pas, mais elle coûte cher. On ne dit que le bien des choses. Donc
et
la publicité, c'est l'école, qui va toujours chercher le meilleur. Toujours chercher la qualité et pas le défaut. Le défaut existe, bien entendu, il ne faut pas le nier. Mais elle va toujours, la presse, elle cherche le malheur, la publicité, elle cherche le bonheur, elle traque le bonheur. Et les grandes campagnes sont des campagnes justement qui nous font rêver et qui un peu conjuguent le bonheur au lieu de conjuguer le malheur du monde.
Et comment se trouve aujourd'hui la publicité face aux injonctions de la société dans laquelle on est? Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans une société qui se veut plus sobre, qui se veut plus durable, qui se veut plus éthique. Or, la publicité, elle engage, via le rêve, via le meilleur, à consommer davantage, à finalement ne pas aller dans le sens du monde tel qu'il pourrait se dessiner. Comment on se retrouve face à ces injonctions contradictoires? Comment vous voyez ça?
Tu as une vue de journaliste ou d'écrivaine et pas du tout une vue de consommateur. La publicité...
Parce que je ne sais pas s'il y a encore de la place pour les consommateurs. C'est ma question.
La publicité, son métier, c'est de faire aimer d'amour les produits qu'elle défend. Et pour ça, de se mettre dans les grands combats du moment. Le métier qui fait le plus pour la sauvegarde de la planète dans le monde, c'est la publicité. 20% des investissements des annonceurs dans le monde, ce sont des milliards, hein, sont consacrés à des campagnes pour sauver le monde ou pour se battre pour d'autres causes. Moi-même, j'ai écrit à 4 ans un livre qui s'appelle « Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire », qui raconte tout ce que la publicité peut apporter à l'écologie. Et les écologistes se trompent complètement en attaquant la publicité. Ils doivent au contraire exiger que la publicité fasse encore plus pour eux. La publicité ne veut pas surconsommer, elle veut consommer mieux. La publicité, c'est la volonté d'un monde meilleur. La presse, c'est la volonté du monde d'aujourd'hui. Bon, à force de le vouloir pessimiste, négatif, en guerre, en privation, on finit par intoxiquer le monde. Au lieu de se lever tôt le matin en disant « mais qu'il est beau le monde ». Il faut regarder le futur d'un regard poétique.
Et par rapport au futur, il y a deux citations que j'aime beaucoup. C'est votre père qui vous a dit « mon fils, tu n'es pas beau, pas intelligent, pas grand, en gros, mais tu as la passion, demain t'appartient ». C'est-à-dire que tout se crée, tout se fait par la passion. Il y en a un autre, c'est Reagan qui « mon plus beau jour, c'est demain ». En fait, on est dans le rapport à demain, sur le rapport à la création, toujours.
Moi, j'ai qu'une définition de mon métier, j'ai mis d'ailleurs 60 ans à la trouver, poser une question à un annonceur. Que devient la neige lorsqu'elle fond ? L'annonceur, sans réfléchir, va vous dire de l'eau. Bon, de l'eau, c'est une réponse incolore, inodore, sans saveur, pas pour moi. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. La publicité, c'est l'éternel printemps de la vie. Moi, mon métier, c'est évidemment de vendre des yaourts et des voitures, mais bien plus que ça. Et j'ai compris ça, c'est ma plus belle histoire avec François Mitterrand. François Mitterrand m'appelle 3 semaines après être entré à l'Élysée, il me dit, c'est Ségala, vous êtes libre à déjeuner. J'arrive et il me dit, Ségala, je dois vous faire un très beau cadeau parce que vous m'avez offert ma campagne, parce que moi je voulais que cette campagne soit un acte d'amour, je ne voulais pas qu'elle soit tarifée. Donc tout ce qui était la création, le marketing, le suivi, les relations presse, était gratuit, et puis la gauche payait ses affiches et ces trucs-là. Bon. Et donc, il m'a dit, écoutez, je pense que vous avez servi à quelque chose, donc, mais vous êtes compliqués, les créatifs, trouvez-moi une idée, et je vous ferai mon cadeau. Revenez me voir dans une semaine. Une semaine après, je vais le voir, je dis, président, j'ai trouvé, je veux une journée avec le Dalai Lama. Il dit, mais vous êtes fou. Mais vous êtes malade. Mais vous croyez que j'appuie sur un bouton Dalai Lama et qu'il est là dans mon bureau. Bon. Ben écoutez, monsieur le président, vous voulez me faire plaisir. Allez, repartez chez vous et revenez me voir la semaine prochaine. Je ne reviens pas le voir la semaine prochaine. 3 mois passent, 6 mois passent, 1 an passe. Sa secrétaire, Marie-Claire Papuguet, me téléphone, le président ce soir. À un dîner un peu intime à l'Élysée, il aimerait bien que vous veniez avec Sophie, si vous êtes libre. On arrive à l'Élysée, 20h, on est dans la petite salle à manger, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, chaise vide. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, arrive le Dalai Lama. Waouh ! Bon. Et Mitterrand lui explique, j'ai invité mon publicitaire, parce que, etc., etc. Et le Dalai Lama dit, est-ce que vous connaissez cette fable tibétaine ? C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie. Il lui dit, réfléchis bien, réponds-moi. Je vais te poser 3 questions. Première question, quel est l'envers du blanc ? Le noir ? Non, non, c'est la bonne réponse, mais réfléchis, réfléchis. Deuxième question, quel est l'envers du jour ? Et le jeune moine réfléchit, il dit, maître, la nuit. Très bien. Tu as réfléchi, c'est la bonne réponse. Troisième et dernière question, quel est l'envers de la vie ? Et le jeune moine réfléchit, et maître, seule réponse, l'envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris, lui dit le vieux disciple. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est la définition de mon métier. C'est la définition de la publicité. Chaque fois que je fais une campagne, c'est un shoot de jeunesse que je mets dans les veines de la marque. Et si tout le monde fait bien son boulot, et si le shoot est chaque fois plus fort et chaque fois plus beau, ben, la marque ne mourra pas et verra au contraire toutes ses concurrentes disparaître autour d'elle. Et ce shoot, c'est un shoot d'amour. Rien d'autre que ça. C'est ma drogue, c'est ma cam, elle est là. Donne-moi ma seringue.
Il est troublant ce Jacques Séguéla. À la fois, il semble parfaitement modéré, s'adaptant à tout un chacun, et dans le même temps, c'est quelqu'un d'assez radical. Chaque personne qui entre dans son bureau, il dit « l'aimer ». Quand il écrit une lettre, il la signe globalement d'un mot qui est tendresse. Donc, l'amour est partout. Mais pas que. On peut se demander comment cet homme de pub, qui est une référence mondiale, ne serait qu'un homme de cœur, qu'un homme d'amour. Serait-ce une publicité de soi-même ? Je vous propose qu'on fasse tout de suite un petit retour ensemble sur son engagement.
Moi, je suis du parti de l'amour, c'est-à-dire que je ne suis d'aucun parti, j'ai servi un peu tous les partis, etc. J'ai fait 20 campagnes dans le monde. Bon. J'ai 4 en France et puis 16 ailleurs, un peu partout, du Chili jusqu'en Pologne, en passant par Israël. Et,
bon. La Russie. Bon.
Et la Russie. Et la Russie. Et donc, je crois simplement que je suis du parti des idées.
Et de parce qu'on façonne un peu le monde. Bien quand sûr. On s'engage aussi pour bien des sûr. Hommes politiques, il y a quelque chose où on dessine aussi le monde.
Bien, sûr. C'est, bien sûr, c'est pour ça que c'est très important. Et moi, toute ma vie, je me suis appliqué à avoir trois filtres quand on me demandait de faire des campagnes. Ouais. Un, que ce soit des campagnes de liberté. Ouais. Je me souviens que Kadhafi m'avait proposé 1 million de dollars payés en Suisse, double faute, pendant 10 ans. pour restaurer son image. J'ai envoyé une lettre qui n'était pas une lettre d'amour.
C'était pas signée tendresse.
Qui n'était pas signée pour qu'il remettait les choses en place. Deuxièmement, que ce soit pour faire avancer le pays. Et troisièmement, pour le faire dans l'amour et pas dans la haine. Et toutes mes campagnes ont été comme ça. Et regarde les campagnes de Mitterrand. La plus belle, c'est Génération Mitterrand. Elle dit tout, puisque Génération Mitterrand, c'est la main de Mitterrand avec... c'est Michel-Ange avec le petit doigt de ma fille qui avait un an à cette époque-là.
Que et en termes de savoir-faire par rapport à par exemple, la publicité qui façonne le monde, les 22 000 personnes qui travaillent à vos côtés, au travers de ce qu'on entend, de ce que vous racontez ou même ce que vous écrivez, c'est comme si à chaque fois c'était l'amour, l'intuition, la fulgurance qui vous permet de créer. Mais comment vous partagez ça aux autres?
Mais la publicité se résume à avoir une idée. Donc toute l'agence, tous les publicitaires doivent se concentrer leurs esprits, leur talent, leur culture pour trouver une idée. Et les idées ne meurent pas. Il n'y a que les idées qui changent le monde. Et donc il n'y a que les idées qui changent le monde de la consommation. Grâce à la technologie, parce que c'est la technologie qui mène la créativité par le bout du nez, et non pas l'inverse, n'en déplaise aux créatifs.
Jacques Séguéla, 90 ans d'amour. La question, c'est que finalement, quand on s'assied ici, un peu chez vous, dans votre bureau, on pourrait se dire c'est 90 ans de prix, ou 90 ans de conquête, ou 90 ans de réussite, ou de victoire, ou 90 ans d'image. Non, c'est 90 ans d'amour.
Oui, parce que c'est un livre, c'est un César, comme le César qui est sur mon bureau. Moi, j'étais très proche de César, il est mort dans mes bras. Et je me souviens qu'une première fois où il vient dîner à la maison, on était tous les trois avec Sophie, j'avais un grand mur, parce que je collectionnais les boîtes métalliques de publicité. J'en avais 300. Voilà. Et il a regardé ça, il m'a dit, je vais compresser ta passion. Et deux jours après, il a amené un de ses aides qui a pris toutes les boîtes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire de ça? Et un mois après, il est arrivé avec un magnifique tableau comme ça, qui est chez moi, qui était la boîte de mes 300 boîtes. Donc il avait compressé les choses. Mais ce livre, ça compresse le meilleur de mes 29 premiers livres, mais entièrement réécrit. Parce que ce n'est pas la même écriture. Parce que je me suis rendu compte que raconter des histoires comme ça, bon, c'était pas un livre, mais qu'il fallait un trait d'union. Et j'ai dit, mais il n'y a qu'un trait d'union, c'est l'amour. J'ai eu une vie d'amour depuis. Parce que j'ai en fait 79 ans. 89 ans.
Mais oui, mais on n'est pas à 10 ans près, Jacques. Ouais.
quelle horreur. J'aimerais bien. Donc en fait, j'ai 89 ans dans deux mois. Moi, je compte ma date de naissance de la création. Je suis un créatif, c'est le moment, l'instant où l'on fait le bébé. C'est pas l'enfantement, c'est le cours des choses. Et il y a déjà 9 mois de vie dans le ventre de sa mère, et pas même que c'est là que tout se passe. Dans les pays, certains pays d'Asie, ils comptent comme ça la vie à partir de la première seconde de la vie. D'où ces 90 ans.
On l'aura bien compris, il y a donc l'amour et les idées. Et si Jacques Séguéla n'est jamais à court d'amour, il n'est jamais à court d'idées non plus. Pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière, de slogan en slogan, on peut croire reconnaître un geste, une fulgurance ou une signature Séguéla. Mais les choses sont bien plus complexes que ça. Alors qui tient la plume quand l'histoire s'écrit? D'où vient sa créativité? De porosité en porosité, c'est une affaire d'écoute. On l'écoute.
Tout le monde me dit que je suis l'inventeur de la force tranquille. Non, c'est Mitterrand qui est l'inventeur de la force tranquille. Parce que la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, écoutez, Séguéla, moi, contrairement à tout ce que tout le monde raconte, j'ai une vraie force en moi. Et c'est pour ça que je l'ai gagné. Et c'est cette force que je veux que vous arriviez à exprimer dans votre affiche. Et puis, n'écoutez pas les balivernes en disant que les chars russes vont arriver dans Paris le jour de mon élection. Moi, je ne suis pas pour la révolution, je suis pour l'évolution. La force, tranquille.
Mais pareil par rapport à ce que vous écrivez sur Coluche quand il cherche les restos du cœur.
Oui.
En fait, vous entendez ce que disent les gens et c'est
oui.
ça
Coluche, qui était à Europe. Un jour, mon téléphone, il me dit que j'ai une idée, j'en ai marre des Français qui ont faim, qui ont froid, etc. J'en ai marre de tout ce pognon, je veux faire des restos du cœur. Donc il faut que tu me trouves un nom, et puis il faut que tu me trouves un logo. Je dis, un nom, Resto du cœur, est-ce que je fasse mieux que ça? Ben, c'est pas un nom, mais bien sûr, puis, en plus non seulement c'est un nom, mais c'est le slogan en lui-même. Il dit, alors trouve-moi quand même un logo. Alors il m'a dessiné une fourchette comme ça, sur le coin de la table. Je lui ai dit, écoute, arrête là, tu as tout fait. Je suis arrivé à l'agence, on a mis ça au point, et c'est parti. Et Coluche, c'est le grand regret de ma vie. Parce que 4 ou 5 ans après sa mort, Véronique Colucci, j'étais très proche d'elle, vient me voir avec 2 ou 3 personnes dans ce bureau-là. Et elle me dit, écoute, on est un peu en panne, on voudrait que tu sois le président des Restos du Cœur. Je lui dis, mais écoute, je ne peux pas faire ça. J'étais en pleine campagne de réélection de François Mitterrand. Et ça m'a hanté toute ma vie. Comment j'ai raté cette marche vers la sagesse.
Le seul regret de ma vie. C'est ça que vous écrivez.
Oui.
Le seul regret de ma vie.
Oui, parce que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Moi, je ne cultive que mes rêves. Et c'est ce qui fait le bonheur de la vie.
Alors, il y a quand même cette perception de la vie qui est vraiment un choix, j'ai le sentiment. Quand on vous lit, Jacques Séguéla, on se rend compte que vous dites que, par exemple, dès le début, votre mère aurait pu avorter sous l'influence de votre grand-mère Lydia, mais en fait, vous êtes un survivor. Vous racontez finalement que chaque contingence ou chaque chose qui vous arrive est un présent, est un cadeau. Le fait que vous soyez seul dans votre lit à barreaux, c'est votre opportunité pour pouvoir observer le monde. En fait, quand est-ce que vous avez appris à transformer ce que chacun aujourd'hui dans l'ère victimaire pourrait considérer comme un bobo, quand est-ce que vous avez appris à le transformer en beau?
Oui, moi je n'ai, c'est joli le slogan, tu devrais faire la publicité. Moi je n'ai rien fait, je n'ai rien décidé, je n'ai jamais cherché un emploi, c'est la vie qui m'a mené par le bout du nez. Et chaque fois, comme un rebond d'une pierre tu vois, jetée dans la mer, par ricochet, je suis allé là où personne ne m'attendait et où moi-même je ne m'attendais pas d'aller. Tu sais que moi, quand j'ai démarré mon adolescence, mon père qui avait fait ses études chez les jésuites m'a dit « tu dois faire tes études toi aussi chez les jésuites ». Pour moi, ça a été prison de break. Et j'en pouvais plus, j'avais besoin de m'évader. Et j'avais une espèce de nasillon qui tous les soirs nous conduisait au dortoir. Et donc, pratiquement une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, il m'agenouillait sur une règle de fer au milieu de sa petite tente, au milieu de l'immense dortoir. Et il était en train de me narguer en faisant cuire deux œufs comme ça. Il y avait une fourchette qui était là sur la table. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris la fourchette dans les fesses. Bon, par bonheur, elle n'est pas rentrée, mais enfin, elle a poussé une hurlante. J'ai été viré comme il se doit et j'ai trouvé la liberté à Perpignan. Et c'est là que je suis devenu un petit sauvageon pendant 10 ans, puisque j'ai pris le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école, il y avait un cinéma. Alors j'ai pris le chemin de l'école une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois, je n'ai pas pu m'empêcher d'entrer dans le cinéma au lieu d'aller à l'école. Et après, tous les jours, je suis rentré au cinéma.
Vous auriez pu être Jean-Claude Romand.
Absolument.
Et vous étiez où à ce moment-là dans votre tête? Vous étiez plutôt heureux, vous étiez insouciant, vous étiez...
J'étais totalement...
Vous aviez honte, vous vous regardiez même plus dans la glace,
pas,
vous étiez...
Pas du tout. J'étais totalement rebelle, j'étais totalement insoumis, je vivais de ça et je ne me rendais absolument pas compte.
Vous n'étiez pas là, quoi.
J'étais d'une insouciance totale. J'étais très en retard par rapport à mes copains et tout ça. Bon, j'étais un sale gosse. Non. Mais sans aucune méchanceté. Mon père, son rêve, c'était que son fils soit chirurgien. J'étais fils unique. Il m'a dit, écoute, tu ne peux pas être chirurgien, tu tuerais les gens, tu n'es pas assez stable. Il m'a dit, va dans la pharmacie, c'est un métier où tu pourras faire travailler les autres. Bon. Donc, je suis allé dans la pharmacie et j'ai découvert la botanique. Et moi, dans cette pharmacie, je m'étais lié avec... Le préparateur qui était passionné par la botanique et qui me faisait passer l'examen tous les matins. Ce qui fait que je suis arrivé à la faculté, J'ai fait 100%. Alors que d'habitude, les autres faisaient 10, 20, 25, c'était magnifique. Et j'étais major. Et donc, mon père ne l'a pas cru d'ailleurs. Il est allé voir le recteur en disant, vous devez vous tromper. Cette petite canaille ne peut pas être major. Et pour me remercier, il m'a offert celle qui va changer ma vie, la deux chevaux. Et il m'a fait ma première deux chevaux. 15 jours après, je partais avec mon frère d'âme, mon frère d'armes, Jean-Claude Baudot, faire un des tout premiers raids en deux chevaux de Perpignan à Karachi. Et au retour de ce raid, on a été sollicité pour faire des conférences, pour écrire des articles et tout ça. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le monde? Comment se fait-il qu'aucune voiture à aujourd'hui n'ait eu l'idée de faire le tour du monde? On fait le tour du monde à la voile, on fait le tour du monde en ceci, en motocyclette, etc. Mais pas en voiture. Donc, et il n'y a qu'une voiture qui est capable de faire ça, c'est la deux chevaux, d'où le premier tour du monde. Quand on compte, on a traversé 8 déserts. Les 8 déserts... les plus terrifiants du monde. Mais on est totalement inconscient. Parce qu'aujourd'hui, quand on traverse un désert, vous avez des hélicoptères au-dessus, vous avez le téléphone, vous avez les GPS. Nous, on avait une boussole. Une boussole, on ne savait pas faire le point.
En quoi le cancre que vous avez été, en quoi le pharmacien que vous avez été, en quoi l'aventurier et le sauvage que vous avez été, en quoi le journaliste que vous avez été, ont fait le publicitaire que vous avez créé?
Mais je crois que c'est ma mère qui m'a donné le goût de la création. Parce que mon père a dit à ma mère, j'ai lu que l'éducation nationale avait des éducateurs qui permettent aux garçons un peu égarés, aux enfants un peu égarés, de les aider dans un plan de carrière. Tu devrais aller en rencontrer un à Paris. J'arrive à Paris avec ma mère. Je suis en face de mec un peu décati. Qui me dit, bon, on va tester, et il me montre les papillons, comme ça, c'était le test de Rochard, et il me pose des questions idiotes, et j'étais tellement révolté que je lui répondais n'importe quoi, mais comme pour le mettre en boîte. Hein. Bon. Et à la fin, il fait les comptes de tout ça, et il dit à ma mère, je suis obligé de le dire devant votre fils, ce garçon n'a aucune capacité intellectuelle, il faut le diriger vers des travaux manuels. Et ma mère me sauve la vie. Elle se lève comme un ressort, elle me prend par le bras, elle me dit « Mon fils, le cancre, ça n'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. » Et on part voir une pièce de Pierre Brasseur qui s'appelait Kent. Moi, je suis ébloui par ça, on revient à l'hôtel et on parle toute la nuit avec ma mère de la création du théâtre. Je n'avais jamais vu de pièce de théâtre, il n'y a pas de théâtre à Perpignan à l'époque. Bon. Et le lendemain matin, elle téléphone à mon père, elle lui dit « Écoute, je crois qu'il se passe quelque chose, un éveil, je reste une semaine. » Pendant la semaine, tous les jours, le matin, on est allé voir 3 ou 4 galeries, l'après-midi, les musées, le soir, 1 ou 2 théâtres. Et c'est là qu'est finalement, ma mère m'a changé l'âme.
Ma mère m'a changé l'âme. Voilà l'expression qui est on ne peut plus belle pour voir comment Jacques Séguéla s'est animé tout au long de sa vie. Et les rencontres l'ont évidemment nourri, alors il a été à la fois pharmacien, puis journaliste, puis homme de pub, on le sait. Mais comme pour chacun, ce sont les rencontres qui font l'homme, et il y a eu plusieurs personnes qui ont changé l'âme de Séguéla. Ça va de Pierre Lazareff à Jacques Prévert, on l'écoute.
Ma première campagne, je l'ai faite avec Prévert, mon maître, le maître des mots. C'était une campagne pharmaceutique, et je me suis souvenu que Prévert faisait des collages terribles de douleurs. Je regarde dans l'annuaire, il était dans l'annuaire. Donc je décroche mon téléphone, j'ai Prévert au téléphone. Et je lui dis, je voudrais vous parler de publicité. Il me dit, la publicité, j'adore, venez me voir, etc. Et il me dit, écoutez, moi je suis d'accord, je vais vous faire vos collages, mais vous restez avec moi pour me tenir compagnie. Et puis d'ailleurs, tiens, je vous invite à déjeuner, je vous fais des spaghettis. Et il me dit, allez me chercher un petit Robert. Et moi, en descendant l'escalier, je lui dis, un petit Robert, enfin, lui, l'inventeur des mots, comment il a besoin d'un petit Robert? C'est l'encyclopédie humaine. Bon, je rentre dans la première librairie, j'ai un petit Robert, je reviens, je mets le petit Robert sur la table de cuisine, mais il me dit, monsieur Guéla, c'est un camembert, petit Robert, que je voulais demander. C'est pas un dictionnaire, le dictionnaire, c'est moi, j'en ai pas besoin. Et quand je l'ai quitté, je lui dis, Jacques, quel est le conseil que vous me donnez pour avancer dans la vie? Il me dit, il n'y en a qu'un. Crois en toi. Il y a ceux qui croient, croire, ceux qui croient, ne sois pas un corbeau, sois un aigle comme Napoléon Bonaparte, sois une palombe comme Picasso, et crois en toi. Et si tu crois en toi, les autres croiront en toi. Ben, c'est la définition de la vie.
Et Pierre Lazareff, c'est aussi une autre rencontre qui nourrit. Hein.
Immense rencontre, c'était l'homme des mots. À retour de mon tour du monde, j'ai créé un livre qui s'appelait La Terre en rond, qui a eu du succès, qui m'a ouvert les portes de Match. Donc j'ai fait 2 ans à Match, puis je suis parti au service militaire, et je me suis trouvé dans une chambrée avec Philippe Labro, avec Francis Weber, avec Juste Jacquin, avec Depardon.
Ça dit un peu la destinée quand même, hein. C'est pas banal. Hein.
C'est pas banal.
Bon, à l'époque, vous ne saviez pas que ça allait être incroyable.
Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout.
Et, surtout pour eux.
On a été chercher de faire un Paris Match militaire qui s'appelle TAM, ça a duré 2 ans et demi. Et donc c'est là que j'ai appris mon métier, c'est comme ça que je suis rentré à Match. Et après, je suis allé frapper à la porte de Lazareff parce que j'étais tellement fasciné par cet homme. Non, non.
Il vous a appris quoi, lui?
Mais lui, il m'a appris le poids des mots. Quand j'ai eu 30 ans, il m'a invité au Fouquet, il avait sa table au Fouquet, et il m'a dit, ce gars-là, maintenant il faut parler de plan de carrière. Et il me dit, mais d'ailleurs toi, tu n'es pas fait pour des vieux métiers, tu es fait pour les métiers neufs, va dans la pub. J'ai dit, quoi dans la pub? Je ne connais rien à la pub. Va dans la pub! Et puis je rentre chez moi, je me dis, bon, c'est Pierre Lazareff, c'est mon maître à penser. Il faut l'écouter. Ça vient peut-être d'ailleurs. Il faut l'écouter. Et le lendemain, je lui écrivais une belle lettre de démission, en tout l'amour que je lui portais. Et je frappe à la porte de mes copains qui m'avaient accueilli lorsque j'étais revenu du Tour du Monde, qui était le patron de la pub, de la publicité, des relations presse de Citroën, et qui me disent, mais tu veux faire de la pub? Va dans notre agence! Et je vais directement dans leur agence qui était d'Alpire, et c'est de là que je vais enchaîner ma publicité, et que je vais changer de métier en une journée, sans ne rien connaître de la chose.
Et c'est ainsi qu'un homme dense comme Jacques Séguéla s'est retrouvé à animer un monde de publicité qu'on pourrait croire souvent un peu trop superficiel. Jacques Séguéla a donc traversé le siècle, sans jamais le survoler, et quand on lui demande ce qu'il veut transmettre demain du rapport à l'image, du rapport à l'histoire, du rapport à la consommation, du rapport à l'écologie, à la planète, au vivant, du rapport à l'éthique, eh bien, il pense tout naturellement à ses 5 enfants. Qu'est-ce que vous leur dites à chacun de vos enfants, de ce que vous voulez qu'ils retiennent de vous, de ce que vous voulez leur transmettre, de ce que vous voulez donner, au-delà de la question du publicitaire que vous êtes, de l'homme que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez offrir?
Mais c'est très simple. Il a mis toutes ses forces, toutes ses possibilités, tous les moyens qu'il avait à essayer de faire aimer l'amour. Quand on regarde la presse, je ne suis pas sûr qu'il ait réussi. Mais ça viendra. Mes petits-enfants, à venir, feront aimer l'amour. Il n'y a pas plus bel amour que celui du même amour. Tu sais, moi, tous les matins, quand je me réveille, ma femme, et encore ce matin, ma femme me dit, tu es beau, je t'aime, tu es beau. Je dis, Cahuzac est passé dans la nuit, il m'a replanté des cheveux. Je me précipite devant mon miroir où je vois ma tête décharnée de nonagénaire. Je dis, bon, ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et ma maîtresse, c'est toi, c'est vous. Et c'est ce combat permanent pour faire que, finalement, qui a raison? C'est Dieu là-haut. Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est quand même le seul vrai message.
Et ça,
pour apporter le monde.
Ça, vous l'avez entendu depuis toujours ou vous l'entendez plus aujourd'hui?
Non, je l'ai entendu depuis toujours. Et moi, j'oublie le temps, parce qu'il m'en reste tellement peu. Je ne vais pas m'accrocher au temps. Je ne veux pas savoir. Tant que je suis là, et puis un jour, je ne serai plus là. Hein. Mais qu'à ce moment-là reste ce parfum d'amour.
Merci infiniment, Jacques Séguéla, pour cette tendresse, pour ce parfum d'amour. Ce Matrioshka est maintenant terminé. Merci infiniment de l'avoir suivi. 90 ans d'amour chez Plon, c'est une autre façon d'aborder les poupées russes de Matrioshka. et c'est avec joie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube et surtout de partager nos contenus. À très bientôt, salut. Matrioshka.